L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Bonjour Bernard Vacherot. La semaine dernière, bonjour. Nous terminions l'émission en expliquant un petit peu les conditions dans lesquelles on devenait novice en rentrant dans un monastère. Mm-hmm. Et vous disiez que on faisait don de ses biens aux pauvres ou au monastère ou à l'évêque ou au pape ou à qui?
Alors, en principe, on le faisait au monastère.
On se dépouillait, en fait.
On se dépouillait. Et le monastère avait pour charge, donc, d'aider à vivre ce jeune moine, et ou cette moniale, s'il s'agissait d'une féminine, on va en parler, et aussi le travail, donc, auprès des plus pauvres, auprès des paysans, l'agriculture, l'évangélisation. Or, tout cela a un coût, et il faut bien que, quelque part, on fasse aussi un effort financier. Bien.
Bon, ne me dites pas qu'il y avait quand même la tentation d'accueillir plutôt des enfants de riches que des enfants de pauvres, du coup?
On accueillait tout le monde.
Ah, bon. Vous me rassurez, là.
Non, mais là, on accueillait tout le monde. Hein.
Et donc, effectivement, ceux qui apportaient des choses permettaient que d'autres en bénéficient.
Absolument. Hein. Étant donné qu'une fois que tu es moine, plus rien ne te distingue du frère voisin. Hein. Alors, il se pose une question, enfin, on a souvent posé une question, mais y avait-il des monastères féminins? On a beaucoup parlé des mâles, parlons un peu des dames. Eh bien, effectivement, il y avait des monastères féminins. Je vous ai déjà dit dans le début de notre émission, de nos séries d'émissions, que dans l'Antiquité romaine, on voyait par exemple des formes de vie religieuse avec les vestales, hein, qui étaient des vierges, c'est intéressant, des vierges, on parlait bien de filles qui avaient fait son célibat, consacrées au culte de la déesse Vesta, qui était la déesse des foyers. En Grèce antique, existait une communauté à peu près similaire, communauté féminine, qu'on appelait les oracles, et le siège était à Delphes. Et dans le judaïsme ancien, existaient des prophétesses qui vivaient au temple de Jérusalem. Par exemple, citons la prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asher, qui, et là je reprends les textes, c'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 2, versets 37 et 38, qui dit que Anne ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Vous voyez, c'est clair, hein? Voilà. Ensuite, l'évangile. Alors, on sait que l'évangile de Saint Luc a été rédigé vers 80 après Jésus-Christ. Donc, depuis les vestales romaines, les femmes oracles de Delphes, les prophétesses du judaïsme ancien et la prophétesse Anne parmi elles, on constate que donc, il n'y avait rien d'étrange à ce que naisse un monachisme féminin. Alors, comme enfin, à l'occasion de cette brève évocation, ne pas penser, par exemple, à la célèbre prophétesse Déborah, épouse de Lapidote. Déborah, dont le nom signifie en hébreu « abeille », se trouve proche de celui de Débir, terme hébraïque signifiant « retiré », et donc exprime une idée de retraite spirituelle et aussi de travail, comme l'abeille. Hein, travail et vie spirituelle, et vivant retiré dans un lieu sacré, par exemple le temple de Salomon, ou le Saint des Saints, où fut abrité l'Arche d'Alliance. Et Saint Jérôme, qui a vécu de vers 342 à 419, traduisant l'Ancien et le Nouveau Testament, en parle dans sa Vulgate et lui donne le nom latin de oraculum, c'est-à-dire lieu de la parole. Parole est ici à entendre au sens biblique du verbe, hein, c'est-à-dire parole de Dieu, donc alliance, alliance de Dieu avec Moïse ou bien alliance mosaïque. On retrouve donc cette Déborah, c'est très intéressant comme étymologie du mot, parce qu'on voit le rôle de cette mystique femme moniale dans le temple, à la fois prière, Deb, et à la fois abeille, travail. Prière et travail. Hein. Alors, cette Déborah, on peut en voir la mention au livre des juges qui a été et rédigé entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, mais contenant des éléments beaucoup plus anciens remontant au cours du 11e siècle avant Jésus. Déborah rendait justice sous un palmier que l'on situe entre Rama et Bethel. Or, Bethel, Beit El, hein, en langage hébraïque, la maison de l'useul, de l'unique, de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est à Bethel que s'était à un moment édifié un second temple de Jérusalem, d'Israël, second temple qui a été détruit. Hein. Alors, c'est sous les directives ainsi prononcées que Barak conduisit les guerriers israélites des tribus du Nord et les rendit victorieux à l'issue d'une lutte contre les Cananéens qui avaient Sisera pour chef. Un chant, oui, les poésies de l'époque étaient souvent appelées chants. Un chant commémore cette victoire, il est appelé Cantique de Déborah. Confère, juge, au chapitre 4, verset 5, et encore de 6 à 24. Puis, tout le chapitre 5, on peut dire dans l'ensemble. La littérature juive range Déborah parmi les prophétesses à caractère érémitique. Et oui, c'est une ermite. Pour certains rabbins, et pour d'autres, elle est classée parmi les prophétesses vivant une vie monachique au service du culte au temple, comme la prophétesse Anne en Saint-Louis.
Alors pourquoi vous nous parlez de Déborah, là, d'un seul coup ?
Parce que, justement, on voit dans les sources de l'Ancien Testament, comme du Nouveau, le rôle de ces femmes, Déborah et plus tard Anne, fille de Phanuel, qui vivaient justement en ermite ou en moine. Alors là, les traditions rabbiniques divergent un petit peu, dans le temple, et sont donc les ancêtres des moniales féminines.
Alors vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a une légitimité au monastère de femmes parce que 12 siècles avant Jésus-Christ, déjà...
Je ne dirais pas une légitimité, je dirais qu'il y a un héritage historique et spirituel. D'accord. N'oublions pas que les chrétiens, n'en déplaisent à certains, aujourd'hui, nous sommes tous des judéo-chrétiens. Nos racines sont dans le judaïsme. Et les racines de l'Église romaine sont des racines orientales. Devrais-je rappeler que le premier pape de Rome, à savoir Pierre, venait de l'Orient ?
Déborah, 12 siècles avant Jésus-Christ, on nous dit, et donc il y a une... Vous m'avez repris quand j'ai dit légitimité, mais du coup ça ne se discute pas. Les femmes aussi peuvent fonder des monastères.
Tout à fait.
Alors pourquoi on dit des couvents ? C'est pas la même chose.
On a pris le terme, c'est un peu commun, terme abbaye, couvent, etc.
Est-ce qu'il y a des chapelaines ?
Il y a, oui, sous forme de sœurs chargées de la vie spirituelle du couvent, des mères prieures, par exemple, oui, qui sont chargées de la prière, de la vie spirituelle religieuse du couvent. L'aumônerie est confiée à un prêtre, homme, mais... On va dire que c'est la mère abbesse et la mère prieure qui ont vraiment un grand poids dans la vie interne, spirituelle et de travail des religieuses. Presque souvent, presque plus de poids que l'aumônier lui-même. Vous voyez ? Alors, nous venons de voir donc l'extrême antiquité historique de l'existence de femmes ermites ou bien cénobites, bon, donc monachiques. Et nous venons de voir que l'établissement de monastères féminins existait déjà dans le vieil Orient chrétien, et même en Occident, puisqu'il y avait les Vestales à Rome. Bon. Alors, il semble qu'en Occident, pour arriver dans l'époque chrétienne, il semble qu'en Occident, elles vivaient jusque-là, ces femmes, dans des communautés, mais qui n'avaient pas vraiment de règles, de structures très très établies, fermées. Non, pas du tout. Il apparaît que les premières mentions de voiles données aux femmes religieuses sont du 7e et 8e siècle. Vous voyez ? Et il apparaît que c'était l'évêque qui leur remettait le voile à l'occasion de leurs vœux. Donc à partir des 7e et 8e siècles. Alors, il est possible que les toutes premières religieuses n'aient pas été cloîtrées ou en communauté. On ne peut rien affirmer rigoureusement à ce sujet-là. Les seuls documents sérieux dont nous disposons nous permettent de dire que c'est à partir du cours, j'ai bien dit du cours, du 5e siècle, que l'on voit en Occident les premiers couvents de femmes vivant en communauté. Actuellement, le plus ancien dont on conserve des traces est celui qui a été fondé à Arles, donc en Provence, par Saint-Césaire, aux alentours de 502, lorsqu'il fut évêque de la ville d'Arles. Certains historiens avancent, mais ça, c'est eux qui s'engagent, la date de 513. C'est possible. On sait que Saint-Césaire créa pour elles une règle particulière, adaptée à elles et à leur mode de vie, et que cette règle devint très rapidement la règle de la majorité des monastères féminins de la Gaule mérovingienne dans les fondations qui ont suivi. Alors, les monastères féminins étaient placés sous la direction d'une abbesse, souvent appelée mère abbesse, et les évêques, comme pour les monastères masculins, avaient pouvoir de direction sur ces monastères. Ce que nous en disons ici vaut pour la période mérovingienne et va beaucoup évoluer, voire énormément évoluer, au cours des siècles suivants, tout en gardant pourtant l'esprit originel, oriental, dans ses fondements essentiels, comme nous le verrons par la suite.
Oui, on peut dire que le couvent est plus ouvert au monde. En général, on y assure des missions qui nécessitent un contact au monde. Enfin,
Ça peut se dire. Par exemple, on emploie le terme de couvent aussi bien pour des communautés religieuses qui, comme la mienne, par exemple, des missionnaires de Saint-Paul au Proche-Orient, n'est pas monastique, mais qui est une association de prêtres et de frères vivant une vie religieuse pour l'évangélisation.
Oui, mais je pensais un petit peu à la naissance des services de santé.
Oui.
Très souvent, ce sont des religieuses qui, donc, ont été au contact avec des blessés.
Tout à fait. Alors, ces religieuses-là, justement, vivent souvent, on emploie le terme de couvent. Hein. Ouais, bon. Et pour d'autres qui sont plus cloîtrés, on emploiera plutôt le terme de monastère.
Effectivement. On peut dire la différence, couvent. C'est la clôture.
Effectivement. On peut dire couvent aussi pour elle, mais bon. Hein. Alors, voulez-vous que l'on parle des richesses de l'Église et des monastères sous les Mérovingiens?
Ah, si vous arrivez à le faire en 4 minutes, il n'y a pas de problème. Sinon, bon. On continuera la semaine prochaine, c'est pas grave.
Alors, on va peut-être continuer la semaine prochaine.
Bon.
Pour ne pas couper ceux qui ne...
D'accord, merci pour aujourd'hui, Bernard Lachereau. L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.